Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons profiter de la présence à notre micro d'un grand spécialiste pour se faire ou se refaire une introduction et un état de l'art sur l'IA à l'automne de 2025 du coup. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques et politiques.
Cause commune 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web cause-commune-singulier.fm et sur notre app mobile sur 93.1 FM et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté. Chères auditrices et chers auditeurs, ce ne sont pas que des mots et une intro un peu trop générique. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous avez un super pouvoir, facile à activer. Likez, partagez notre émission pour nous emmener un peu plus loin. Si vous avez un iPhone, prenez 5 secondes pour nous retrouver avec votre navigateur sur Apple Podcasts et nous mettre 5 étoiles. Nous avons besoin de vous et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
C'est la rentrée des séries. À côté de la série réalisée en partenariat avec l'AFNOR sur les expérimentations et déploiements de l'IA dans les collectivités locales, je vous propose une série pour reprendre de la hauteur sur notre sujet favori. Pour cela, j'ai la chance de recevoir un grand spécialiste du domaine. Il est professeur, vous allez voir, très pédagogue. C'est un militant de l'éducation populaire numérique dès l'école, peut-être qu'on en reparlera aussi. Et c'est aussi pour cela que dans le cadre de plusieurs émissions, il a bien voulu revenir avec nous sur les grandes notions. On va commencer aujourd'hui par une introduction et un état de l'art sur l'IA pour comprendre les possibilités, les pièges, les fantasmes, les perspectives. Cela nous ouvrira la voie vers des questions plus profondes sur ce qui fait aujourd'hui la différence entre l'humain et l'IA, notamment en matière de créativité. On prendra le risque aussi de se parler de la prise de décision autonome, entre guillemets, de spiritualité et de conscience, pourquoi pas. Bon, vaste programme, mais heureusement pour nous, nous serons guidés par un chercheur de l'ENS Paris, un directeur de recherche émérite à l'INRIA, membre de l'Académie des sciences et au demeurant très sympa. Bonjour Serge Abitboul.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous en studio, en ce début de saison 3, pour nous refaire un peu une introduction à l'IA et nous remettre un peu les idées au clair, parce qu'on a toujours besoin un peu de se remettre les points sur les i, sur les notions, les grandes notions. Vous faites de l'informatique depuis un petit moment. Est-ce que vous pensez comme d'autres, je l'ai entendu à droite à gauche, que les dernières évolutions qu'on a qualifiées d'IA, c'est un stade un peu ultime de l'informatique, c'est un stade un peu finalement très attendu depuis longtemps, et là on arrive enfin à un grand moment de l'informatique.
Alors je dirais que c'est clairement un moment important de l'informatique, comme il y en a eu déjà pas mal dans le passé. Stade ultime, je vois vraiment pas pourquoi. C'est une technologie qui avance depuis... alors, c'est pas si vieux que ça, hein. C'est genre 70 ans ou un truc comme ça.
On va y revenir.
Donc, déclarer qu'elle est terminée, je vois pas pourquoi. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y avait un problème, un verrou. Typiquement, le verrou, c'était la compréhension des images, c'était la compréhension de la langue. Et ce verrou, sur lequel on travaillait depuis 70 ans, ce verrou a sauter ces 10 dernières années, donc c'est un moment important, et du coup on voit des tas de possibilités, des tas de champs qui s'ouvrent, et ça c'est génial.
Et du coup, en fait, si on reprend un peu les choses à la base, est-ce qu'on peut dire que tout ça, l'informatique finalement, c'est au départ l'idée de mécaniser les mathématiques, ou est-ce que je suis complètement dans le faux quand je dis un truc comme ça?
Non, t'es pas du tout dans le faux, mais on va même revenir un peu en arrière, hein,
Ouais.
C'est vraiment le thème classique de fiction, le golem de Prague, Pygmalion égale Athée, les robots d'Asimov, c'est arriver à faire réaliser à des machines ou à des choses artificielles, des objets artificiels, des facultés humaines, leur faire accaparer ces facultés humaines. Alors tout ça, c'est resté du folklore, c'est resté de la fiction pendant très longtemps, et puis petit à petit, c'est devenu un thème un peu récurrent des techniques et des mathématiques. Hein. Les mathématiques et les techniques avançant, bon, on a eu des choses comme la machine à calculer de Blaise Pascal, ou le métier à tisser de jacquard. C'est, on allait vers ça, mais on y allait lentement. Et le point de rupture, c'est le XXe siècle avec l'arrivée des ordinateurs. C'est-à-dire que là, on avait tout d'un coup un outil, l'informatique, qui permettait de réaliser ça. Et du coup, ces idées, ces grandes idées de faire à des objets des tâches humaines devenaient réalisables. Donc c'est ça qui a vraiment véritablement changé, c'est l'arrivée des ordinateurs, l'arrivée des logiciels, et ça c'est, disons, depuis le milieu du XXe siècle.
Et ces premières machines, d'ailleurs je tiens à le préciser, on peut les voir en ce moment au Jeu de Pomme, dans l'exposition Le Monde selon l'IA, qui est encore en cours jusqu'à fin septembre, et du coup on peut toucher du doigt ces premières tentatives physiques d'essayer de maîtriser les mathématiques. Du coup là, l'informatique, au fil de l'évolution des techniques, donc il y a l'informatique qui apparaît, et cette nouvelle discipline, finalement, elle permet la convergence de quels facteurs ? Enfin, qu'est-ce qui manquait avant l'informatique et qu'est-ce que l'informatique vient finalement catalyser ?
Alors, c'est vraiment cette notion d'ordinateur, cette machine qui est capable d'aligner des tâches, de raisonner, et donc de mettre les bases de la simulation des humains. Donc ça, c'est en gros les transistors, toute la technologie logicielle, les mémoires, etc. C'est toute une technologie qui se met en place, disons, à partir des années 50, et qui permet d'aller tout ça. Et l'IA, en tant que science et en tant que technologie, ce n'est qu'une branche de ces trucs-là, parce qu'en fait... On n'écrivait pas des logiciels pour faire des conneries, on écrit des logiciels pour réaliser des tâches intelligentes. Donc, d'une certaine façon, toute l'industrie du logiciel partait pour essayer de réaliser un petit peu ce rêve de faire réaliser des objets, des tâches humaines, d'accord ? Donc, a priori, et c'est là qu'il faut peut-être insister, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique, c'est pratiquement la branche maître de l'informatique. Par contre, à partir du moment où vous avez un ordinateur, c'est une machine à tout faire. Et ça, c'est important de garder ça en tête. C'est pas une machine pour faire que des calculs. Au départ, on voulait faire des calculs avec. Puis on s'est aperçu que finalement, bon, les machines calculent, mais ça sert à quoi ? Ça sert à stocker des données, ça sert à communiquer, ça sert à raisonner, ça sert à faire des tas de choses. Et donc, du coup, ça devient important pour tout le monde. Ça devient important pour les mathématiciens, pour les physiciens, pour les chimistes. Ça devient important en sciences humaines et sociales, qui sont les SHS sont véritablement transformés par le numérique et maintenant par l'intelligence artificielle. Donc, du coup, tout le monde s'accapare ça. On arrive même à des trucs un peu drôles, des OPA, des physiciens, de dire non, l'informatique, c'est nous. Les maths, non, l'informatique, c'est nous. Enfin, pardon, l'intelligence artificielle, c'est nous. Non, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique, et cette branche de l'informatique appartient à tout le monde par définition, puisque les ordinateurs sont des machines à tout faire.
Est-ce qu'on tente une définition de l'IA ? Est-ce que vous pouvez nous partager la vôtre, ou c'est un truc un peu impossible finalement de définir l'IA et que...
Il y a à peu près autant de définitions de l'IA qu'il y a de chercheurs dans le domaine. Moi, je vais vous donner bêtement celle du Parlement européen en 2022.
Ça veut dire qu'elle vous convient ?
Elle me convient, c'est pas plus mauvaise qu'une autre. L'intelligence artificielle désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Ça veut pas dire grand chose, mais ça veut tout dire, d'accord ? Et d'une autre façon de le voir, c'est dire quand on dit la possibilité de reproduire, c'est aussi la possibilité de simuler. Donc une intelligence artificielle, c'est un peu de l'entubage, c'est de vous faire croire que c'est un humain qui réalise ça, alors qu'en fait c'est une machine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi qui crée un peu toute la magie, hein, parce que la magie de l'intelligence artificielle, c'est que ça fait réaliser à des objets des tâches que les objets sont pas censés faire, d'accord ? Ça explique aussi tous les fantasmes autour et toutes les craintes, parce que évidemment c'est quand même bizarre d'avoir un logiciel qui fait des trucs aussi intelligents.
Et si on rentre un peu dans la précision, finalement, de la définition, il y a différentes formes d'IA. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu ? Ça, c'est compliqué, parce que quand on dit IA, le mot est tellement générique, et il y a tellement de formes et de domaines qui sont concernés, qu'à un moment donné, on se perd un peu. Peut-être que si on reprend des définitions peut-être plus informatiques, justement, on peut mieux comprendre. Vous m'aviez dit, en préparant cette émission, qu'il y avait différentes formes d'IA.
Oui, bien sûr. Et ce qui est un peu gênant, enfin pour les techniciens que nous sommes, c'est que le grand public en général voit le dernier truc à la mode comme l'IA et a l'impression qu'il y a une IA, il y a un logiciel, il y a une machine qui fait tout. Ça, c'est du pipeau, d'accord. Donc, on peut en gros classifier les IA par en grande famille.
Oui.
Mais c'est un peu arbitraire, mais quand même. D'abord, il y a ce qu'on va appeler les IA symboliques. C'est les IA qui travaillent sur des nombres, des structures comme des arbres ou des graphes, des formules mathématiques. C'est l'IA qui va vous permettre, par exemple, de vérifier une preuve de théorème ou de regarder si un logiciel est correct ou pas correct ou de trouver si une formule logique a des solutions ou pas. Donc ça, c'est l'IA symbolique. C'est peut-être celle dont le grand public est le moins au courant,
familier, ouais.
mais c'est celle qui a quand même eu depuis 50 ans des progrès considérables que vous retrouvez dans votre téléphone ou dans les grands ordinateurs qui calculent la météo.
Et c'est encore une IA qu'on peut voir agir, dont on peut comprendre le cheminement.
Alors on peut, c'est une IA qui est développée avec des algorithmes comme toutes les IA, mais celle-là, en gros, on lui dit ce qu'il faut faire et donc on peut d'une certaine façon vérifier qu'elle le fait ou pas. Quand elle donne une preuve de théorème, on peut vérifier sa vérification, etc.
D'accord.
Ça, c'est l'IA symbolique, première famille. Ensuite, il y a une deuxième grande famille. Alors là, on rentre un peu dans les fantasmes. C'est l'IA statistique ou l'IA apprentissage automatique ou l'IA neuronale. Il y a plein de noms et c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, en première approximation, on dirait que c'est la même chose. Donc, c'est les fameux réseaux de neurones qui est un algorithme qui a été développé, enfin une famille d'algorithmes qui ont été développés au cours des ans et qui des années et qui permettent de résoudre des problèmes. Et c'est ceux qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui qui ont véritablement changé les choses depuis quelques années.
Mais cette branche-là qui a bougé récemment.
C'est cette branche-là qui a bougé récemment. C'est une très vieille branche. Hein. Depuis les années 40, ça existait déjà. Il y avait déjà des gens qui disaient l'idée de départ, c'est un peu simple, c'est de dire ben nous on, dans notre cerveau on a des neurones. On va mettre des neurones artificiels. Alors, d'où l'idée d'IA neuronale. Par contre, il faut vraiment vous écarter de l'idée que ça fonctionne comme un cerveau. C'est très, très différent. L'IA neuronale n'a rien à voir avec le cerveau parce que, encore une fois, c'est quelque chose que des humains ont construit. C'est beaucoup plus simple que le cerveau, d'une certaine façon. Et par contre, ça peut être beaucoup plus gros et beaucoup plus, faire beaucoup plus de calculs. Alors, quand on a dit ça à l'IA statistique, beaucoup parce que c'est basé sur des IA, sur des stats. Après, il y a dans ce truc-là, il y a plusieurs catégories, on va dire.
Là, on ouvre la poupée de la poupée russe, là. Hein.
On ouvre la poupée russe et on va mettre deux grandes catégories. Une qui est plus traditionnelle, c'est l'IA qui vous permet d'analyser. Donc, par exemple, vous lui donnez une série et puis elle va vous dire ce qui se passe ou vous lui donnez une photo et elle va vous dire là c'est Jean-Philippe, là c'est Serge, là c'est la Tour Eiffel, etc. Donc ça c'est de l'analyse, c'est l'IA analytique si vous voulez. Et puis il y a celle qui génère, c'est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui avec tous les machins genre ChatGPT, Gemini, etc. C'est celle qui va générer du texte. Et donc c'est pas forcément très très différent, au fond, derrière il y a un réseau de neurones, mais quand même entre analyser une image et générer du texte, c'est pas la même fonctionnalité.
Et entre les deux, c'est cette révolution de 2017, avec des théories où justement on fait apparaître des notions de contexte autour de la donnée, qui permettent de pas faire c'est pas de la probabilité pure finalement, c'est plus que ça.
Oui, alors on va faire déjà un peu en arrière. Oui. Pourquoi tout d'un coup c'est devenu possible? Ça fait des plombes qu'on travaille là-dessus.
Et on sent le chercheur qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Oui.
Et les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Il y avait des résultats quand même. C'est pas, on n'a pas, sinon on aurait arrêté. Donc on a progressé, mais ça a progressé vachement lentement. Et puis c'est arrivé, disons, depuis le nouveau siècle, il y a eu un alignement des planètes. Alors la première chose, c'est qu'on avait on s'est mis à construire des ordinateurs, en fait, des fermes d'ordinateurs de plus en plus gigantesques. On a obtenu des puissances de calcul de plus en plus considérables. Donc ça demande beaucoup de puissances de calcul. Deuxième chose, c'est qu'on est arrivé à obtenir des données de plus en plus considérables. Et comme très souvent, ces machines font de l'apprentissage, donc elles apprennent sur des données. Plus vous avez de données, plus elles peuvent apprendre. Et la troisième chose, c'est qu'on a améliorer constamment les logiciels, développer des techniques de plus en plus sophistiquées. Et c'est ça, cette conjonction des planètes, qui a fait qu'à un moment donné, on s'est mis à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant, comme par exemple d'arriver à générer du texte. Ça, c'est quand même quelque chose qui... On l'a vu arriver avec ChatGPT chez vous et moi, mais dans les laboratoires, ça existait déjà, mais c'est pas si vieux que ça. Alors, il y a un autre point sur lequel c'est très important, c'est le fait que les logiciels qui comportent ça, les algorithmes, sont très complexes. On a tendance à sursimplifier. C'est très souvent quand on voit des gens qui essaient de vulgariser la technologie, on a l'impression que c'est vachement simple. Il suffit de calculer la probabilité du mot suivant pour faire une IA générative. Mmh. C'est pas si simple que ça, d'accord? C'est pas si simple que ça parce que, d'une certaine façon, il faut par exemple, un plongement lexical qui va regarder le mot dans son contexte et puis étudier tous les contextes de mots. Et c'est beaucoup plus sophistiqué, ça demande beaucoup plus de calcul. Et ensuite, il y a toute une gamme de choses. On peut apprendre, comme on vient de le dire, à partir d'un corpus plus ou moins noté. On peut apprendre à partir d'humains qui corrigent les erreurs. Dans ChatGPT, le chat, c'est on regarde ce qui se passe et puis on corrige les erreurs. On peut apprendre par renforcement, c'est-à-dire que quand les gens sont contents de ce que fait l'apprentissage, ils lui donnent un peu un bonbon, et s'ils sont pas contents, ils disent non, c'est pas bien, avec des points, et puis finalement le logiciel s'améliore. En fait, on combine toutes ces techniques, donc c'est pas aussi simple qu'on veut bien vous le dire, et à force de trop sursimplifier, on arrive à dire des bêtises, quoi.
À la fin, on a des produits finalisés, qui tournent, mais qui viennent de ces différentes branches. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on a entre les mains, c'est finalement des cocktails de toutes ces IA. On n'a pas l'IA générative, on a l'IA générative qui va utiliser aussi des IA de reconnaissance d'images, qui va utiliser potentiellement d'autres types d'IA. C'est un peu un mélange finalement, et peut-être même d'ailleurs de l'IA symbolique derrière tout ça. C'est peut-être un mélange de toutes ces branches qui finit par être mis entre nos mains.
Tu as tout à fait raison, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans une phase de transition. Et quand moi je vois des gens se mettre à lister tous les problèmes des IA génératives, je leur dis, attendez, calmez-vous un peu, c'est déjà la génération aujourd'hui a corrigé un certain nombre de problèmes des IA génératives de la première génération.
Ça
n'a que 3 ans. Et en particulier, on peut combiner des tas de techniques. Donc, en prenant par exemple la combinaison entre l'IA statistique et l'IA symbolique, maintenant on a des trucs qui sont absolument géniaux, comme des trucs qui permettent de démontrer des théorèmes. Alors moi, je vais juste donner un exemple. Ça s'appelle Deep Geometry. C'est DeepMind, une filiale de Google, qui a fait ça. Ils ont pris les problèmes de maths qui avaient été donnés aux Olympiades de mathématiques. Ils ont pris les problèmes de géométrie qui ont été donnés aux Olympiades de mathématiques. Et leur logiciel en a résolu la plus grande partie. Alors bon, pour des logiciels dont on n'arrête pas de nous dire « Mais non, mais ils savent pas ce qu'ils font. » Non, mais attendez, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils ont pris des problèmes de géométrie, ils les ont résolus. Alors comment ils ont fait? Je vais donner une explication qui est pas vraiment précise, mais qui va donner l'idée, c'est qu'ils vont combiner d'un côté les IA génératives qui vont se dire, tiens, voilà une preuve de ce théorème. Ils vont inventer un truc complètement pipeau, d'accord? Ils vont le filer à un vérificateur de théorème. Le vérificateur de théorème, lui, c'est de l'IA symbolique, il est carré, il vérifie pas à pas, et il dit, c'est pas vrai, il y a marqué donc, c'est vraiment pas donc, pourquoi donc? Il va repasser à l'IA générative, et puis il va y avoir une espèce de ping-pong, ça se passe pas vraiment comme ça, mais un peu l'idée... C'est qu'à la fin, la conjonction entre cette IA générative qui invente, qui imagine des preuves, et l'IA symbolique qui les vérifie, clac, ils ont les preuves. Et ça, d'une certaine façon, la plupart des problèmes qu'on citait sur les IA génératives il y a quelques années, quand ChatGPT est sorti, sont en train d'être résolus. Oui. Une question qu'on a souvent entendue, c'est, elle donne des citations bidons. Oui, elle invente des citations, c'est normal, c'est une IA qui en a appris à inventer, donc elle invente, et si vous lui demandez une citation de Lao Tzu, elle va vous donner une citation sur le sujet que vous voulez, c'est son boulot, d'accord? Par contre, si vous lui dites, là j'ai une base de données de citations, et je voudrais que tu me trouves une citation là-dedans, va trouver une citation là-dedans, donc ça dépend ce que vous lui demandez.
Ouais, il faut être. Il y a aussi l'humain dans la boucle qui doit pouvoir agir et faire fonctionner correctement l'IA. Finalement, la capacité un peu bluffante, c'est le langage, c'est la capacité de discussion. Et où derrière on voit pas effectivement tout ce que vous venez de décrire en termes de mécanismes de construction de réponses. Est-ce qu'il y a quand même des limites finalement à ces IA génératives? Est-ce que ces IA génératives aujourd'hui, automne 2025, on connaît quand même quelques limites dont on se dit ça va être difficile à dépasser? On en a dépassé beaucoup, mais il y a quand même des choses que ça, là, on sait que technologiquement, on va avoir du mal à le dépasser.
Alors, encore une fois, si on dit les IA génératives, je sais pas, il y a pas mal, il y a sûrement des tas de limites. Mais quand on dit on va combiner toutes les techniques qu'on connaît, plus les techniques qu'on connaît pas encore et qu'on va développer demain matin, après-demain matin, moi, je vois pas trop les techniques. Alors, je vois pas trop les limites. Alors, encore une fois, on se calme un peu. Il y a des limites théoriques. Et on sait, par exemple, qu'il y a des problèmes qu'on ne saura pas résoudre, quoi qu'on fasse, qui sont indécidables. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'algorithme pour les résoudre, donc ça a été démontré mathématiquement. On va pas passer au-dessus de ça. Il y a des problèmes sur lesquels on sait qu'ils coûtent extrêmement cher. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être les résoudre, mais avec les technologies actuelles, avec les machines actuelles, il faudrait des milliards d'années avec les ordinateurs les plus puissants de la planète. Donc c'est en gros, en pratique, on sait pas les résoudre. Donc ça, ces limites-là existent toujours. Par contre, si le but que tu prends, c'est de dire, ben voilà, il y a une tâche cognitive que des humains savent faire, savent réaliser, et dire ce que c'est, d'accord ? Moi, j'ai tendance à pas voir pourquoi on pourrait pas faire cette tâche avec une machine. Mais encore une fois, là, on est dans c'est une opinion personnelle, c'est pas scientifique. Tu trouveras facilement des scientifiques qui diront que je raconte des conneries. donc, on n'en sait rien. Pourquoi je peux essayer
Oui, tu as forcément des arguments derrière pour
appuyer ton... Voilà, je peux essayer d'argumenter un peu. Alors, peut-être mon argument principal, c'est que depuis que j'ai commencé la recherche, on n'a pas arrêté de me dire, des gens n'ont pas arrêté de me dire, ouais, non, mais ça, les ordinateurs peuvent le faire, mais ça, on atteint les limites, ça, ils ne sauront pas. Donc, à un moment donné, j'entendais, mais... Jouer au niveau d'un grand maître d'échecs, c'est pas possible. Bam, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont dit non, mais les échecs, c'est facile parce que c'est juste plein de trucs essayés. Le Go, c'est vachement plus compliqué. Jamais ils y arriveront. Bam, ils l'ont fait. Le grand verrou, c'est.
D'ailleurs, on peut parler un peu d'AlphaGo, parce que c'est un exemple qu'on a vu ensemble en préparant l'émission. AlphaGo, c'est un principe. On vous parliez de l'apprentissage par renforcement, et c'est un peu le grand exemple de cet apprentissage-là.
Alors, c'est un grand exemple de plusieurs choses. Premièrement, c'est un grand exemple de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on lui a donné dans un premier temps. Toutes les parties de Go qui avaient été jouées par des grands maîtres, on lui dit voilà comment on joue au Go. Et il a analysé toutes les parties de Go et puis il les a pris et puis il a essayé de faire pareil. Et il est arrivé au niveau des grands maîtres. Et puis après, ils ont fait ce qui s'appelait Alpha Zero, c'est-à-dire en disant non, mais tu vas oublier comment jouent les grands maîtres et tu vas jouer tes parties contre toi-même en utilisant ce que tu appelais l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que quand tu gagnes la partie, tu t'aperçois que les trucs, tu mets des poids en disant mais là c'était bien puisque j'ai fini par gagner. Par contre, quand tu perds, j'ai perdu. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là était pas terrible, d'accord? Et tu vas jouer comme on a plein de temps de calcul et qu'on a des grosses machines, tu vas jouer des milliards de parties contre toi-même. Et le AlphaGo Zero est arrivé à être encore plus puissant que celui qui avait appris des grands maîtres. Donc là, on est vraiment dans un cas où la technologie a, d'une certaine façon, appris elle-même toute l'expérience que les grands maîtres, parce que les grands maîtres, ils sont pas devenus grands maîtres comme ça. Ils sont devenus grands maîtres parce qu'ils ont étudié les parties des autres grands maîtres, parce qu'ils ont joué plein de parties et puis qu'ils ont des neurones. Et ben là, d'une certaine façon, la machine, elle a des neurones et elle a joué des tas de parties contre elle-même et elle a appris de ses choix.
Bon, ben donc là, effectivement, on en reparlera au moment de parler de la créativité. Il y a eu un moment de créativité de l'IA qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris.
Je ne vais pas spoiler, oui, on parlera de ça avec la créativité.
Et du coup, dans les perspectives, parce que voilà, il faut qu'on passe un peu à la partie perspective. Donc, on a un peu l'impression d'être à la croisée des chemins, justement, avec des techniques qui produisent des résultats très impressionnants, mais qui ne sont pas toujours parfaits, effectivement, qui sont parfois un peu critiquables. Finalement, c'est quoi le problème pour se dire c'est quelque chose, c'est un moment important et c'est les résultats possibles vont aller dans le sens des attentes. Qu'est-ce qui manque à ça? Est-ce que c'est notre manière d'aborder le sujet? Est-ce qu'il y a des manques particuliers?
C'est une bonne question. Et en même temps, t'es hyper exigeant parce que c'est en train de transformer complètement les entreprises, c'est en train de transformer complètement les assos, c'est en train de transformer complètement l'éducation.
Et, je suis un peu dur. La fiabilité s'améliore quand même.
Et tu demandes pourquoi ça va pas plus vite. Alors oui, on peut se poser la question pourquoi ça va pas plus vite. Mais moi, je vais juste donner des exemples. J'ai parlé d'IA dans un grand groupe public. J'ai parlé d'IA dans une grande entreprise. J'ai parlé d'IA dans une association. Et à chaque fois, j'ai posé la question. À chaque fois, le point, c'était les dirigeants, les cadres. Vous voulez savoir comment l'IA allait transformer leur boulot. Ils ont bien raison de se poser la question, d'accord? Et en arrivant, je posais la question aux gens qui étaient dans la salle, mais est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui utilisent déjà l'IA, notamment les IA génératives, dans leur travail quotidien? À chaque fois, grande masse de gens l'utilisaient déjà. Donc les patrons se demandaient qu'est-ce qu'on va faire, les cadres se demandaient qu'est-ce qu'on va faire, les gens s'étaient déjà appropriés, donc ça va quand même très 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 vite. Alors maintenant, pour revenir quand même à ta question et pas l'évacuer, il y a déjà des techniques qui sont mises en place et qui sont en train d'être utilisées de façon assez considérable. Par exemple, pour ce qui est de la recherche d'informations, il y a les RAG, Retrieval Augmented Generation, qui sont en train de s'imposer. C'est-à-dire que pour faire de la recherche, par exemple, sur le web, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va poser une question à un outil qui va aller chercher des pages web, qui va coller ensemble les pages web avec la question, va donner ça à une IA générative et on va avoir une réponse cohérente, utilisant toutes ces ressources. Alors, ça marche avec les pages web, ça marche avec une base de données, une base de connaissances.
Donc ça, pour toi, c'est une des techniques prometteuses?
C'est une des techniques prometteuses qui s'est déjà implantée. Donc on a déjà parlé du neurosymbolique. Mmh. Mais je voudrais peut-être signer un troisième domaine sur lequel ça va très vite, c'est ce qu'on appelle les agents IA.
Ah oui.
Alors ça, c'est un peu compliqué à expliquer.
Tu vas y arriver. Vous allez y arriver, monsieur.
mais je vais quand même essayer. Alors, les IA génératives, qu'on voit, hein, c'est toujours chez GPT typiquement. On est dans un mode où on pose une question, on a une réponse et puis c'est comme un dialogue. Bon, c'est sympa, mais les agents IA, l'intérêt c'est de pouvoir interagir avec tout l'écosystème. Donc, pour prendre juste un exemple, je peux poser déjà aujourd'hui, et déjà des gens le font, hein, une question à une IA en disant mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aller, je voudrais aller passer un week-end à Barcelone, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que je pourrais visiter, voilà, j'ai 4 jours à passer, comment je fais? L'étape suivante, c'est que l'IA puisse négocier mon billet de train, puisse négocier des hôtels ou des Airbnb, etc. Donc c'est l'interaction avec le reste du monde. Et d'une certaine façon, c'est aussi l'interaction avec d'autres logiciels. Donc, par exemple, un logiciel de preuve ou ce qu'on veut. D'accord. Donc ça, c'est très prometteur. Ça force un petit peu à sortir de son cadre. Et puis, on comprend pas encore très bien parce que dans l'esprit de chacun, c'est plein de modèles d'IA différents qui vont parler entre eux. Pour d'autres, c'est l'interaction avec des agents logiciels différents. C'est beaucoup de choses, mais ça bouge très vite.
Donc je retiens RAG, neurosymbolique et agent IA, c'est les techniques prometteuses issues de l'IA générative que vous voyez aller plus loin aujourd'hui. C'est déjà l'heure de conclure, Serge. C'est pas grave, c'est notre premier, mais pas notre dernier émission sur le sujet. On pourra parler d'émergence cognitive, on pourra parler d'IA générale dans notre prochaine émission. Et d'ailleurs, on va parler créativité, on va parler prise de décision, on va même essayer peut-être de parler spiritualité et conscience. C'était déjà très riche pour une première émission d'introduction et d'état de l'art. Merci beaucoup pour cette première émission. Merci Serge.
Merci à toi.
Merci à vous chères auditrices et chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre grand pouvoir, liker, partager pour aller plus loin, parce que ça stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres. Et puis n'hésitez pas à commenter sur Apple Podcast le podcast. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt.